France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Faire venir une famille, on est incapable de faire ça à deux. On a besoin de soutien moral et financier. Donc on est rentré dans Casa comme ça.
Ah, c'est une voisine qui m'a dit un jour, écoute, on recherche les appartements et tu as ton appartement qui est libre au-dessus. Est-ce qu'il serait possible que tu nous prêtes pour accueillir des gens?
C'était trouver une solution pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes et qu'ils aillent vers le travail. Et voilà, quand on a un travail, on peut vivre. Le but, c'est pas qu'on les aide toute leur vie, quoi.
Ils ont vu cette photo terrible, le corps du petit Aylan échoué sur une plage turque. Ils ont lu l'histoire de Mamadou, amputé des deux pieds après avoir traversé le col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes. Ou bien ils ont découvert, au coin de leur rue, une famille endormie sur le trottoir. Quand d'autres redoutent l'invasion ou estiment qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ils ont ressenti de la honte, de l'impuissance ou de la colère. Plus question d'attendre un geste du gouvernement ou de la mairie, il fallait faire quelque chose tout de suite. Face à eux, ils ne voyaient pas des migrants, mais des personnes en souffrance. Alors, ils ont ouvert leur cœur, leurs bras, leur maison. Ces citoyens engagés sont-ils naïfs ou clairvoyants? Ce qu'ils offrent aux exilés qu'ils accueillent, est-ce de l'illusion ou une aide réelle à l'intégration? Et que risque-t-il à accompagner ainsi des étrangers en situation irrégulière? Migrants en Auvergne, la solidarité au quotidien, c'est un reportage signé Tara Schlegel. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons aujourd'hui Laurence Roch, avocate au barreau du Val-de-Marne et présidente du syndicat des avocats de France, et Christophe Deltombe, président de la CIMAD, ancien président d'Emmaüs. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons notamment de la loi Asile-Immigration qui a été publiée mardi au journal officiel. Mais je vous invite d'abord à écouter le reportage de Tara Schlegel. Tara, vous vous êtes intéressée à ces simples citoyens qui contribuent dans leur vie quotidienne à l'accueil des migrants. Vous êtes partie en reportage en Auvergne cet été.
Oui, Aurélie, dans le Puy de Dôme, à une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, à Billon, précisément, petite ville de 4885 habitants, où au cœur de l'été, quand je m'y suis rendue, le collectif CASA continuait de fonctionner à plein régime pour aider une poignée de familles de réfugiés, comme ils les appellent la plupart du temps. Alors c'est un peu un abus de langage, parce que ce ne sont pas pour la plupart des demandeurs d'asile ayant obtenu le statut de réfugié, mais plutôt des hommes, des femmes, des enfants sans papier, sans hébergement, sans ressources. CASA est né à l'automne 2015, au pire moment de la crise des migrants en Europe. C'est un collectif d'associations, mais ce sont surtout en réalité quelques dizaines de bénévoles qui, en trois ans, ont réussi à aider 6-7 familles. Aide quotidienne, ça va du centre aéré pour les enfants, 33 euros par jour, au rendez-vous chez le dentiste en passant par l'achat d'une voiturette, on va l'entendre. CASA a un budget modeste, 23 000 euros de dons depuis 2015. Il faut donc, pour ces simples citoyens, se montrer toujours très inventifs.
Et à Billon, on va d'abord rencontrer Annette, professeure d'histoire géographie à la retraite, membre de l'Amicale laïque et cofondatrice de CASA.
Donc ici, nous sommes dans le centre-ville de Billon.
On est vraiment à la lisière du quartier médiéval. Et c'est une ville à forte tradition, je dirais, résistante et culturelle. Il y a eu donc beaucoup de résistance en 39-45. Et en décembre 43, il y a eu une rafle qui a fait beaucoup, beaucoup de morts parmi les résistants et également des otages dans la ville, laquelle rafle donc est commémorée chaque mois de décembre ici. Donc ça donne une tonalité tout de même, je dirais. Voilà, je sais pas, elle est peut-être inconsciente collectivement, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça dans cette ville.
Donc là, on va aller voir un des deux appartements.
On va voir un appartement qui est prêté par une personne privée. Et c'est un grand appartement qui permet d'accueillir une grande famille du Kosovo.
Donc l'appartement qui est prêté à une petite famille se trouve juste à la poste à côté.
Oui, voilà, juste derrière la mairie. Donc c'est une femme et ses deux enfants. Et en face, donc, on a un appartement donc, où il y a une plus grande famille. Nous sommes sur la terrasse et c'est un grand appartement en duplex. Il fait, je pense, 150 mètres carrés en tout. Mais bon, actuellement, 17 personnes de la même famille logent ici. Il faut bien ça avec des jeunes enfants, deux petits enfants de 2 ans, un de 1 an. Bref, il faut de l'espace.
Sarah.
C'est la chef de famille, Djemileh, la grand-mère. Oui. Comment vas-tu?
Ça va.
Djemileh, celle qu'on surnomme la grand-mère, a en réalité 38 ans. Plein de petits-enfants et 7 enfants, dont 5 l'ont accompagnée ici, à Billon. Son père, à elle et son mari, ont fui la guerre du Kosovo. Grande famille rome, ils avaient pris le parti de Milosevic, le Serbe. Depuis la fin des années 90, ils errent donc, loin de Pristina, entre l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, sans jamais décrocher l'asile. Medina, la cadette, vient d'avoir 17 ans.
C'est mon rêve d'avoir une voiture, un bon travail, être une femme indispensable et d'être heureuse. Ce qui est pour les autres normal, mais pour moi, c'est un rêve, ça. C'est pour ça que j'espère. Ici en France, j'aurai mon place et je serai bien tranquille ici avec ma famille. J'espère.
Toi, tu as grandi en France ou en Allemagne?
Non, en Allemagne. Je suis née là-bas. Et j'ai fait mes études jusqu'à 13 ans.
Et tu es arrivée, tu ne savais pas du tout le français?
Non, je ne savais pas du tout, non. Mais à Clermont, j'ai appris toute seule à parler parce que j'aidais beaucoup ma famille. On était... En fait, le problème, c'était que j'étais toujours très triste là-bas. Je voyais tous les matins, les filles partaient à l'école, elles étaient heureuses et tout. Et moi, j'étais toujours enfermée à la maison et il fallait toujours que je cours comme les adultes. Derrière les papiers, les restos du cœur, voir comment on peut nourrir la famille, organiser. Il fallait toujours organiser toute la journée pour qu'on puisse manger et au moins un peu.
Tu avais quel âge?
J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire tout ça. Et j'étais dès matin jusqu'au soir toujours que derrière les papiers, courir avec ma maman. Ma maman, elle est pas en très bonne santé et je pouvais pas laisser ça tout sur ma maman. C'est pour ça qu'il fallait que je les aide et... Et c'était très très dur pour moi. C'est pour ça que je suis contente de partir maintenant à l'école et de faire mon enfance, quoi. Normal. C'est bien.
Est-ce que toi, tu connais un peu le Kosovo? Enfin, ton pays?
Non. En fait, je pense pas que c'est mon pays. C'est pas mon pays, en fait. Parce que je l'ai jamais vu, je connais pas les personnes de là-bas. Je connais en fait juste les Allemands parce que je suis grandie là-bas, mais maintenant je les aime plus. Je n'aimerais pas repartir en Allemagne. J'aime rester ici, c'est très bien comme ça, comme on est. Je suis contente.
Le collectif CASA est né avant l'arrivée de Djemileh et Medina. L'histoire a commencé par le coup de sang, puis le coup de cœur de deux enseignantes, Françoise et Flore, qui ne pouvaient plus supporter ce qu'on nommait, il y a 3 ans déjà, la crise des réfugiés.
Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que ça a marqué les esprits, il y a eu cette photo absolument terrible de cet enfant qui était mort sur les plages. Cet enfant syrien. Et on s'est retrouvés quelques jours après cette photo. Et Françoise était bouleversée par la photo, moi aussi, évidemment. Elle m'a dit, mais c'est terrible, et on est là, et on regarde, et on fait rien. Et je dis, bah oui, enfin, tu sais, il n'y a pas que sur les plages de Grèce où il faudrait aller. Là, tu sais, actuellement, il y a un bidonville à Paris, à La Courneuve, qui s'appelle le Samaritain, qui vient d'être expulsé. Ils ont rasé entièrement le bidonville. Et les gens, ils sont à la rue, avec des enfants, avec des bébés. Et ils sont à La Courneuve. C'est pas sur une plage de Grèce, c'est à La Courneuve, là. Et c'est en France. Et il y a des bébés, ils dorment sous des tentes. Et Françoise, avec son cœur énorme, 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 elle m'a dit « Bon, on y va !» Là, j'ai un peu paniqué, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai été beaucoup dans le discours et pas dans le militantisme. Je suis quelqu'un de parole, parce que voilà, je suis professeure, donc je parle, je cherche à convaincre. Mais je suis pas quelqu'un d'action. Et là, pour la première fois, ma collègue, elle me dit « Bah, on y va !» Donc, je me suis fait prendre à mon propre piège. Et je dis « Bah, ok, on y va !» Et là est née une idée peut-être un peu bizarre. On s'est dit finalement, la municipalité de La Courneuve n'a jamais rien fait pour eux. Mais peut-être aussi que ailleurs, dans les campagnes qui se dépeuplent,
là où nous on habite,
peut-être qu'il y aurait moyen de justement... Nous, on est en train de mourir de cette perte d'habitants. D'ailleurs, nos collèges ruraux, là, tout de suite, le collège de Saint-Amand-Roche-Savine va fermer, le collège de Quinia est menacé, mon collège où je travaille de Saint-Dié est menacé, celui d'Olliergues aussi. Donc, on est en train de crever, nous. Et alors, pourquoi ne pas les faire venir? Pourquoi ne pas essayer? Et puis, prouver à tout le monde que, en réalité, non, Manuel Valls et Latorre, ils sont parfaitement intégrables. Parce qu'en fait, personne n'essaye de les intégrer. Si on fait une politique d'insertion, une vraie politique d'insertion, on va prouver à tout le monde que, bah oui, comme n'importe quel citoyen européen, ils sont parfaitement capables de s'intégrer. Et là, en fait, on est rentré dans Casa. Voilà, avec l'idée de « on n'y arrivera pas tout seul ». On est incapable de faire ça à deux, faire venir une famille à deux et les intégrer, on n'y arrivera pas. On a besoin de soutien, on a besoin d'un soutien moral et financier pour pouvoir, donc il faut qu'on soit plusieurs dans cette aventure. Donc on est rentré dans Casa comme ça.
C'est ainsi qu'en novembre 2015, les filles d'Auvergne remontent en camion à la Courneuve chercher Daniel, Amalia et le petit Raoul qui avait alors 2 ans. La famille s'installe d'abord chez Flore, puis dans le petit village de Quinya, où les bénévoles de Casa ont restauré un appartement.
Qui vient de fêter ses 5 ans. Voilà. Ça a été des moments super forts et puis rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient laissé leurs 2 filles en Roumanie.
Donc vous n'aviez pas entendu parler ?
Non. Et puis rapidement, en fait, c'est qu'ils m'ont demandé à se connecter via Messenger pour parler par vidéo à leur fille. Là, j'ai compris que ça faisait plus d'un an qu'ils n'avaient pas vu leur fille. Donc, c'est là que j'ai vu apparaître 2 petites têtes à l'écran qui rapidement ont commencé à me dire « S'il te plaît, madame, fais-nous venir. » Donc, ouais.
C'était quelque chose.
Et donc, toi et ta sœur, vous étiez donc restés en Roumanie, c'est ça?
Oui.
D'accord. Tu peux me raconter un peu comment c'était?
En fait, mes parents, on n'était pas trop riches. Et en Roumanie, quand ils ont du travail, c'est 200 euros par mois. Mais c'est aussi trop cher, ce qui est en Roumanie. On ne pouvait pas se payer tout ce qu'on voulait. Après, mes parents, ils sont venus en France. Ils ont venu avec l'idée pour chercher un travail et ils ont dit on peut pas laisser Raoul parce qu'il est trop petit. Et du coup, ils sont venus en France et nous, on est restés avec mes grands-parents. Et j'ai continué, moi, d'aller à l'école. Et après...
Toi, tu avais quel âge?
J'avais 12 ans à peu près. Ouais, j'étais toute seule avec mes grands-parents, ma sœur. Mes parents, ils nous ont manqué beaucoup, mais... C'était un peu obligé. Mais bon. Et après, on remercie beaucoup à Flore. Et elle fait partie de notre famille maintenant. Et on est bien, on est à l'école, c'est tout bien.
Est-ce qu'on peut visiter un peu la maison? C'est possible, juste comme ça?
Si vous voulez, oui. Bien sûr.
Au moment même où l'initiative de Flore et Françoise suscite un élan de solidarité à Billon, au moment où se crée Casa, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, écrit au maire de France. Après la photo du petit Elan, il veut susciter la mobilisation. 24 000 réfugiés doivent théoriquement arriver sur notre sol. Mais cet appel très ciblé ne convient pas aux fondatrices de Casa, Annette et Françoise.
On a vite posé les bases, pas forcément de l'organisation, parce que pour nous, je pense que c'était nouveau, mais on a posé les bases, en tout cas, de ce qu'on voulait faire. Et on ne voulait pas s'inscrire seulement dans ce que proposait le gouvernement, parce qu'on ne voulait pas trier les gens en demande d'hospitalité et en situation d'urgence et de détresse. Voilà comment on s'est défini. Donc que ce soit des Roms, des migrants de l'espace Schengen ou pas, voire même des gens de nationalité française qui sont en demande d'hospitalité, pour nous c'était clair qu'on n'allait pas trier et que donc on allait aussi forcément se heurter à l'illégalité et forcément se mettre... Je dirais en résistance, parce que je pense que c'est une résistance et qu'il en faut. Voilà.
Oui, et puis cette distinction entre migrants en danger, c'est-à-dire on serait en danger quand on reçoit des bombes, mais on ne serait pas en danger quand on crève de faim, c'est absurde. Je veux dire, le danger est le même, quant au danger climatique, etc. Donc ce sont des humains en danger, et nous on a pris cette option-là, radicale, et qui nous convient bien.
Une option soutenue d'emblée par la mairie Front de Gauche de Billon.
Jean-Michel Charlat, je suis maire de Billon depuis février 2016. Nous avons tenu à soutenir cette initiative. Nous ne sommes pas posé la question si c'était légal ou pas légal et si on risquait de pouvoir être éventuellement interpellé par les autorités. Nous avons souhaité pouvoir mettre à disposition de ces gens un toit et après on s'était dit qu'on aviserait si toutefois on était inquiétés.
Et ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit.
À plusieurs reprises, la gendarmerie notamment m'a demandé si j'étais au courant qu'il y avait des réfugiés. Je les ai prévenus que nous étions soutien de l'association et partie prenante de l'association, ce qui fait que je pense qu'il n'y a jamais eu de contrôle ou autre de la part de la gendarmerie notamment.
Et eux,
d'après vous, les gendarmes, ils s'inquiétaient pour des raisons de sécurité?
C'est-à-dire qu'ils sont assez obsédés, mais comme beaucoup de nos dirigeants, par l'islamisme radical, et ils sont à l'affût de tout ce qui peut être attentat ou qui pourrait menacer la population.
En dehors des gendarmes, la préfecture elle-même n'a jamais vu d'un mauvais œil le fait qu'il puisse y avoir des appartements dans lesquels résident des réfugiés qui sont, j'imagine, en situation irrégulière.
Alors la préfecture, je pense, tolère que des gens puissent être logés même un peu clandestinement, parce qu'il s'agit de familles, notamment d'enfants, qui ont obligation de scolariser et par voie de conséquence d'héberger, même si ce n'est pas toujours le cas. Une famille de 3 enfants et une autre de 4 ou 5 enfants, je pense qu'il est difficile de dire, voilà, les enfants vont à l'école et vous vous restez dans la rue. Et je pense qu'ils sont au contraire satisfaits qu'il puisse y avoir des gens qui les prennent en charge, d'autant plus que l'État en général, et que ce soit le conseil départemental, la préfecture... Il n'y a aucun versement à l'association pour pouvoir subvenir aux besoins de ces gens.
CASA repose donc entièrement sur la solidarité des bénévoles. Ils sont une bonne trentaine à former le noyau dur du collectif, à donner du temps, de l'argent, parfois des mètres carrés, comme le pharmacien de Billon qui prête son appartement au-dessus de l'officine à la famille de Djemile, Medina, Maxout et les autres.
Oui, bonjour, je m'appelle Georges et j'essaie à travers le peu de temps que je peux consacrer à apporter ma part à la chaîne humaine que représente l'association CASAP. Voilà.
Comment vous est venue l'idée, finalement, de participer?
C'est une voisine qui m'a dit un jour, écoute, on recherche les appartements et tu as ton appartement qui est libre au-dessus. Et est-ce qu'il serait possible que tu nous le prêtes pour accueillir des gens? Je dis oui, de toute façon, pas de problème. Voilà. On en a déjà parlé un petit peu avec mon épouse qui est tout à fait d'accord, et puis voilà.
Vous pourriez quand même tirer un bon bénéfice de votre appartement, non?
Oui, mais alors il faut reconnaître quand même que l'État français fait des efforts, puisque toutes les factures d'électricité, d'eau, tout ça peuvent être source d'économie fiscale. Et c'est quelque chose qui permet d'amortir le fait que l'appartement n'est pas loué. Voilà.
Est-ce que vous le dites autour de vous que vous avez fait ce geste-là?
Ah oui, tous mes amis, ma famille est au courant, bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui. Oh, j'en ai pas une fierté particulière, ni un. C'est simplement, je trouve que je participe un petit peu à la vie de la planète. Je crois que les temps sont très périlleux, très instables, et même pour nous, Européens, pour le moment, on s'estime bien tranquille chez nous, et à l'abri de tout, et on est à l'abri de rien du tout, finalement. Donc je trouve que c'est bien d'apporter un petit peu de temps, un petit peu de bien-être à des gens qui en ont besoin.
Est-ce que dans la ville, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques, un peu contre, peut-être? Parce que vous croisez beaucoup de monde, votre clientèle.
Mais on n'aborde jamais le problème, en fait. Voilà, le problème n'est jamais abordé directement. De toute façon, je pense, vous savez, il y a des gens qui ont des idées extrêmement précises, extrêmement construites, dans le mauvais sens. Donc c'est pas vraiment à travers une discussion comme ça, de comptoir, entre guillemets, qu'on, je pense, on peut arriver à faire changer les gens d'avis. On peut, à mon avis, qu'exacerber ces sentiments.
Juste en face de la pharmacie, nous retrouvons par hasard Maxout, l'un des fils de Jamie.
Bonjour Maxout.
Bonjour.
Donc là, vous êtes au café?
Ouais. Je me bois quelque chose, je vais commander quelque chose à boire.
Et vous me disiez que ça ne vous arrivait pas souvent, en fait, de venir à ce café. Pourtant, c'est en face de chez vous.
Vous savez, on est une grande famille et on essaye pour que les gens ne nous voient pas beaucoup. On veut avoir une journée comme il faut.
Être discret.
Oui, discret. À cause, la vie discrète, c'est la meilleure vie. Personne ne vient vous déranger.
Ils veulent rester en France, pourquoi, Jean? On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas les accueillir en France. Ce n'est pas possible.
Tout à l'heure, au café, il y avait un monsieur qui disait que... il n'avait rien contre les familles réfugiées, mais qu'il fallait que ces familles respectent les valeurs de la République.
C'est ça.
Vous savez, c'est quoi important pour... Si moi, je fais un problème, c'est plus pire qu'un Français, il le fait. Vous savez pourquoi? Ça, c'est pas la terre de moi. Vous voyez, c'est la troisième, quatrième génération qui sont grandis peut-être ici. Ils sont montés cet village. Et après, si quelqu'un vient, il pisse sur le mur, ou il fait des bêtises, il boit sur le riz, il se bagarre, il respecte pas les gens autour de lui. Normal. Si t'es ici chez moi, tu respectes pas mes règles, je te jette dehors. C'est normal. C'est l'intégration. La politesse, c'est important.
Si t'as pas la politesse et pas le respect, je sais pas comment on peut vivre après. Où on va arriver.
Comment est-ce que toi tu vois ton avenir, Maksout? T'as quel âge déjà?
21 ans.
C'est quoi un avenir?
Avenir, Zukunft.
Zukunft. Waouh, vielen Dank. Où je me sens dans 5 ans? On va dire. Le plus bon que ce que je peux me passer, c'est pour être ici à Billon, pour prendre mes papiers et rester sur mon point où je suis. Ouais, pour se faire une petite vie, acheter une petite maison avec un petit jardin, pas dans le centre. J'aime les campagnes, j'aime vivre dans les campagnes. Avoir un petit chien peut-être. Oui, avoir un journée règlement. Ça, c'est bien.
Une journée règlement, ouais. Ça veut dire quoi?
Que tu sais quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans ton travail, tu vas chercher des enfants, tu vas là, tu as ton journée, vous voyez. J'ai 21 ans, j'avais jamais une journée comme il faut. J'avais jamais une journée réglée. Je suis encore jeune, je crois. L'important, c'est que je reste les 5 ans ici. Si je reste les 5 ans ici, ça va être bien, ouais. Sinon, ça veut dire Kosovo. Quand je suis allé en Kosovo, là, je suis aussi un étranger, vous voyez, en plus grave, encore plus grave qu'en Allemagne. En Kosovo, je suis un étranger rom. Et je parle pas la langue. Et c'est. J'ai pensé pour aller une fois en Kosovo, pour faire mes vacances, pour voir où ils sont grandis, mais arrière, famille. Non, c'était pas ça. Quand je suis venu là, j'ai vu la culture de moi. Ah, les gens de ma culture, les Roms, ils vont travailler, ils vivent de la poubelle de les Albanais. Et moi, je peux pas. Je suis pas habitué comme ça. Je sais qu'est-ce que c'est une école, qu'est-ce qu'on peut faire avec sa vie. Et je veux quelque chose bien pour mes enfants, ma famille, tous. Et le pays, c'est un pays où je pourrais jamais vivre là, vraiment.
Si vous voulez, à pied après, qui se continue avec le ruisseau.
Nous voici maintenant dans une vallée toute proche de Billon. C'est ici que pendant presque un an, Claude, assistante sociale à la retraite, et son mari, ancien éleveur de chèvres, ont accueilli la famille de Fiola. 6 personnes recommandées par un avocat de Clermont-Ferrand qui, un soir, a téléphoné en mai 2015. Claude et Alain avaient accepté de prêter occasionnellement leur grande maison, transformée en gîte rural, sans trop mesurer les conséquences.
Ce qu'on savait, c'est qu'ils étaient sans papier, qu'ils étaient sous la loi Dublin et qu'il ne fallait surtout pas trop en parler. Enfin, on était un peu dans la clandestinité. Bon. Nous, au début, on les déplaçait, mais en ayant toujours un peu pas très tranquille. Bon. Et puis, au bout de 15 jours, pas de nouvelles, 3 semaines, 15 semaines. Bon.
Ils étaient toujours là.
Ils ne savaient rien. Et puis, on ne savait pas comment on allait faire, quoi. On était un peu ennuyés. Et puis, le problème, c'est qu'en juillet, on avait des gens qui venaient au gîte. C'était réservé depuis pour le août. Comment on fait? Et silence complet, hein.
De la part de l'avocat,
tout. Pas moyen de les joindre, rien. Bon. Alors, on a dit, il n'y a plus qu'à se débrouiller tout seul. Et ils ont passé tout l'hiver jusqu'au mois de mars. Mais bon, entre-temps, ce qui s'est bien, c'est qu'il s'est monté ce collectif. Avec la Ligue des droits de l'homme.
Le collectif CASA.
Voilà, le collectif CASA. Bon. Et vraiment, moi au début, c'était ça. En cas de problème, si on vient, où c'est qu'on les plante, comment on fait. Enfin, moi j'étais dans cette angoisse-là. Voilà. Puis finalement, rien ne s'est passé. On avait un peu peur aussi des gens, parce que dans les villages, ça peut aussi. Voilà. Donc au début, on ne disait rien. Et puis en même temps, du coup, ça mettait le doute aussi. Enfin bref.
Et quel lien vous avez tissé avec la famille Maliki? Vous continuez à les voir, hein?
Alors, on les voit, mais un petit peu. Pas, parce que, si vous voulez, quand l'année dernière, ils ont eu leur papier comme quoi ils étaient refusés, déboutés, moi, je suis allée les revoir et j'ai fait assez durement de leur dire que peut-être que le mieux pour eux, pour l'avenir de leur fille, pour aussi le Kosovo, que c'était peut-être mieux de repartir chez eux et qu'ils auraient été, par rapport à leurs craintes, protégés aussi par l'ambassade. Bon. Et c'était le mur. Blocage complet. Et depuis, je pense qu'il y a un petit peu quelque chose qui ne s'est pas remis pareil. Et puis bon, on les voit, mais on reste dans une sympathie. Mais là, maintenant, c'est plus difficile pour nous. Voilà, ça c'est vrai.
Sur les 6 familles que le collectif a pris sous son aile, 3 ont décroché des titres de séjour plus ou moins pérennes. Beaucoup sont donc dans l'incertitude, reconnaissent Françoise et Annette.
Oui, cette histoire, c'est une problématique qu'on découvre. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on pensait accueillir pour des délais très courts. Et puis la réalité fait que, eh bien, on doit s'adapter. Ben, tant pis, on s'adapte. Ça a entraîné des débats, pas simplement sur le laps de temps où on accueille, ça a entraîné des débats sur jusqu'où on va dans l'aide. On peut peut-être développer de façon extrêmement précise. La famille que vous avez donc interviewée avec Flore hier et qui, bon, aujourd'hui sont, on va dire, tirées d'affaires dans la mesure où les parents travaillent. Daniel, dans son pays, était bûcheron. Ici, à Quinya, qui est un territoire très boisé, il a trouvé du travail petit à petit. Or, à un moment donné, on a pu lui permettre d'avoir une mobylette, je crois, pour se déplacer. Mais enfin, se déplacer avec une tronçonneuse en mobylette et en plus dans l'hiver où il neige à Quinya, c'était pas évident. Donc l'idée est venue de, comme c'est quelqu'un qui ne pouvait pas passer le permis de conduire, d'avoir une petite voiturette. Et c'est le papa de Françoise qui a eu cette idée-là. Là encore, moi, personnellement, je n'aurais jamais eu cette idée-là. Le fait d'avoir un collectif avec des gens qui pensent, avec des axes différents et puis qui osent. Le papa de Françoise, qui a été à Chaume Actif, il sait très bien, je pense, travailler avec des gens précaires et trouver des solutions absolument improbables, eh bien, a dit, on va lui trouver une voiturette sans permis.
Mais donc, vous avez eu tout un débat autour de cette voiturette sans permis. Est-ce qu'il fallait ou pas l'acheter, c'est ça?
Le débat sur la voiturette, c'est que la voiturette coûtait cher. Pour ceux qui étaient pour, c'était trouver une solution pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes et qu'ils aillent vers le travail. Et voilà, quand on a un travail, on peut faire comme ils ont fait, c'est-à-dire prendre un prêt, acheter une maison, retaper la maison et voilà, et vivre. Et vivre sans... Le but, c'est pas qu'on les aide toute leur vie, quoi.
Très concrètement, l'argent que Casa récolte, c'est de l'argent qui vient uniquement de dons. On a fait plusieurs manifestations, des concerts avec où les groupes venaient gratuitement. Et une soirée, veut dire, on peut récolter environ, Françoise, tu me diras, à peu près un gros concert, 3000 euros. Donc évidemment, cette voiturette qui coûtait, je crois, 2500 euros, du coup, ça a posé vraiment, vraiment question. Et alors, est-ce qu'on le ferait à toutes les familles qu'on accueille? C'est en effet impossible. Donc, à la majorité, on a tranché, mais il y a eu des débats très vifs. Et notre pari, qui était de se dire on va jusqu'à l'autonomie de cette famille, a été réussi. Ceci dit, on aurait pu échouer.
Donc, ils ont 4 couches pour les bébés au mois d'août. Alors, voilà, si on pouvait faire quelque chose pour eux, pour les, exceptionnellement, payer les couches des deux bébés au mois d'août, les Restos du Cœur fermés.
Ça représente quelle somme?
Je sais pas.
En 3 ans, l'association a récolté 23 000 euros. Ce qui, évidemment, ne suffit pas à faire vivre les familles. À Vertaison, Pierre loge dans son appartement vide un autre couple qui vient d'avoir des jumeaux. Eux sont du Daghestan et s'estiment persécutés dans leur pays. Après s'être vu refuser l'asile 2 fois, Aliran a obtenu l'année dernière, comme il est citoyen russe, un récépissé avec autorisation de travailler pour quelques mois.
Pour ces gens, Aliran, il a travaillé. Et ce qu'on ne comprend pas dans les associations, c'est que des gens comme ça soient abandonnés. Parce que l'État français, pendant plus d'un an, il a autorisé ces gens à travailler. Ça fait 6 ans qu'ils sont en France. Et maintenant, ils viennent d'avoir 2 enfants, ils parlent français. Pour eux, pas question de retourner dans leur pays parce qu'ils seraient inquiétés par la police de Poutine. Voilà. Donc, ils veulent faire leur vie en France. Et quelque part, on trouve que c'est vraiment grave, quoi. D'avoir accepté ces gens pendant un temps, et puis maintenant de leur dire « mais non, vous n'avez plus le droit à rien, vous n'avez plus le droit de travailler ». Et ça, c'est la porte ouverte au trafic, aux gens. Aliran, c'est quelqu'un de très honnête, il veut toujours avoir ses papiers, on a fait des démarches à la mairie, enfin, on a fait écrire le maire de Clermont-Ferrand à la préfecture, mais on est toujours sans nouvelles, enfin voilà. Pour eux, c'est très grave, quoi. Et d'autant plus que ces gens-là ne peuvent pas, comme on le croit souvent, être envoyés chez eux. Parce que quand des immigrants sont renvoyés dans leur pays d'origine, il faut que le pays d'origine soit d'accord. Et Poutine n'en veut pas de ces gens-là, évidemment, puisqu'il les considère comme des terroristes en puissance, des musulmans, il n'en veut pas.
Ouais.
Voilà, il n'en veut pas. Donc, ils peuvent aller en centre de rétention. Il a de ses amis à l'Iran qui ont passé 45 jours, maintenant c'est 90 jours. Les autorités françaises les ont remis dehors après avoir séjourné en centre de rétention, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les renvoyer dans un avion qui les conduira en Russie. Voilà, ça, ils ne peuvent pas. Donc, c'est des gens qui sont quelque part apatrides, qui sont chez nous, quoi. Et là, vraiment, heureusement qu'il y a des associations comme nous, comme d'autres, qui les aident, parce que franchement, c'est une vraie galère pour eux, quoi. S'il n'y avait pas les Restos du Cœur, ces gens seraient affamés. Voilà, on en est là, quoi. Hein, voilà.
Vous dites, Anna, justement, on aurait pu échouer. Est-ce qu'il y a des familles avec lesquelles ça ne se passe pas bien? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
On accueille une femme qui est au demeurant absolument charmante avec deux enfants, qui est seule, qui a subi de graves violences conjugales au Kosovo, justement. Donc une famille traumatisée, une maman traumatisée, des enfants traumatisés. Et la difficulté pour nous, c'est que ce traumatisme, bien qu'elle ait été suivie plusieurs mois par centre médico-psychologique, elle est un peu paumée, il faut le dire, et elle est aussi, sur certains aspects, un petit peu ingérable par nous qui sommes en effet des non-professionnels, même si nous sommes bienveillants, on va dire. Donc on a peut-être de temps en temps lui a montré qu'il y avait certaines règles qu'elle ne respecte pas forcément. Donc ses comportements dans la vie font que elle met peut-être parfois en difficulté l'association. Donc on est toujours un petit peu sur la corde raide entre est-ce qu'on va jusqu'au bout, on est intransigeant, ou est-ce que ben, à un certain moment on laisse un petit peu faire parce que c'est son droit le plus strict d'individu. Voilà. Mais c'est un débat qu'on a toujours hein, tout, au quotidien. Et puis parce que comme dans la vie, comme pour nous tous, comment dire, on a des faiblesses, on a des qualités, on a des défauts, et que ben, ça s'exprime aussi pour ces gens-là. Et c'est bien normal. Et c'est, je dirais, tant mieux. Voilà, on se reconnaît en eux et eux se reconnaissent en nous. Et cette humanité qui circule avec ses qualités et ses défauts, ben, c'est merveilleux. Quoi. C'est merveilleux parce que en retour aussi, bien qu'on ait des difficultés, on a des bonheurs petits et grands, immenses. Voilà. Et moi, j'aimerais que les gens qui sont anti-migrants, un jour, puissent palper ces petits bonheurs. C'est pas du tout. Moi, je n'ai pas l'impression de donner, j'ai l'impression de recevoir. Vraiment. Vraiment.
Pour moi aussi, c'est ma famille de cœur, en fait. Et donc, ce qui est difficile, et ce qu'on s'est dit souvent, c'est d'y mettre autant d'affectifs, mais je crois qu'on peut pas faire autrement. Voilà, on peut pas... Et je reviendrai sur le don. Il y a un texte que j'adore de Khalil Gibran sur le don, dans Le Prophète, et qui dit que, en fait, c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner. Et que ces gens-là, je leur tire mon chapeau, parce que c'est très difficile pour eux d'être tout le temps demandeur, parce qu'ils savent pas faire des papiers, parce qu'il faut les déplacer à l'hôpital à Clermont. Mettons-nous dans cette situation de toujours avoir à demander quelque chose. C'est difficile. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi, dans cette association, et je pense que beaucoup ont fait la réflexion, être assez ouvert pour recevoir. Chaque fois qu'ils veulent nous rendre un service, ils nous remercient de ce qu'on fait. Il faut leur permettre ça, sinon c'est à sens unique. Et sinon, c'est une prise de pouvoir qui est intolérable.
Sur eux.
Une fois par an, après la réunion budgétaire, le collectif se retrouve chez Annette et Christian pour une auberge espagnole plus festive où chacun apporte sa spécialité culinaire.
Alors, comment ça s'appelle? J'ai mis des fonds, ça s'appelle
chez nous, Crelana.
Crelana?
Oui. D'accord. Et en français, je ne sais pas.
Mais en français, ça n'existe pas.
Mais dis-la, moi, je vais te laisser.
Je peux te laisser. On est très, très bien ici. Je ne suis pas trop tout le temps stressée comme avant. Je suis tout le temps stressée. Je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps au lit. Parce que ça, c'est trop pour moi. Avec les enfants, je vois mal les enfants dehors. Ils n'ont pas bien à manger, ils n'ont pas bien à habiller, ils n'ont pas bien à toucher. Ils ont tout le temps, on est stressé. Et maintenant, je suis ici. Très bien. Et merci à tout le monde. Merci, merci, merci beaucoup à tout le monde qui nous aide beaucoup.
Moi, je suis présent, ça c'est déjà assez.
Tout à l'heure, tu me disais que c'est vrai que c'était. Vous en aviez marre quand même de toute cette pression. C'est vrai que toi, tu es encore très très jeune. Mais le problème, c'est peut-être que toute la famille. Enfin, vous êtes nombreux. Donc, c'est vrai qu'il y a une incertitude qui pèse sur toute la famille.
Ça, c'était le problème. C'est pour ça que je suis contente, moi, que je peux réussir au moins moi. Parce que mes frères, ils n'ont pas eu la chance. Enfin, ils n'ont pas pu. Mes frères, ils savent travailler. Ils savent, comme tout le monde, comme tous les humains, j'imagine, enfin, nettoyer un carreau. Et ils veulent travailler. Ils ne veulent pas rester tout le temps regarder juste les murs. Ils veulent que leur argent vienne de... Comment ça s'appelle
Sa sueur.
Oui. Parce que nous, on ne connaît pas ça. On n'a jamais travaillé, nous. Parce qu'on n'avait pas les possibilités, on n'avait pas le droit, on n'avait rien du tout avant.
Et ta maman, elle tient le coup? Elle est forte?
Avant, elle était forte, mais là, maintenant, depuis 18 ans, et ça commence un peu à être... Elle est fatiguée, et elle a perdu l'espoir d'avoir les papiers. On ne sait pas comment c'est. Pour nous, c'est un rêve, ça, d'avoir les papiers, de pouvoir bouger.
De voyager.
Ouais, c'est, moi, ça, c'est quand je serai grande, je vais faire. Je vais voyager dans tout le monde, voir comment les gens vivent, comment c'est différent de l'Europe. Et je, tout ça, je vois. Mais sans papier, tu peux rien voir. Comme là, maintenant, on avait. Avec le collège, on avait le droit de partir en Angleterre. Ben, tout le monde pouvait partir, sauf moi. Et là, j'étais vraiment très triste. Hein. En Angleterre, c'est bien d'aller en Angleterre. Tout le monde a pu, juste moi. Et en plus, ce n'est pas une question de l'argent, parce que l'association, ils m'ont dit, c'est une question des papiers. Tu n'as pas le droit de partir comme ça. Et même le collège, il m'a dit, on ne peut pas prendre ce risque, Medina. Je sais que tu es triste et tout, mais qu'est-ce que tu veux faire quand... Enfin, j'ai appris à, dans la vie, quand tu peux pas, ben tu peux pas. C'est triste, mais c'est comme ça.
Mais tu rigoles tout le temps.
Oui, toujours. Rigoler, ça fait une partie de moi. Même si quand je suis triste, ben je rigole. C'est comme ça. C'est moi, ça. Eba krenchine ame chororo dural beshava amadaye amaro dive amaro dive
Migrants en Auvergne, la solidarité au quotidien, un reportage de Tara Schlegel avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En studio avec nous, le président de la CIMAD, Christophe Deltombe, et Laurence Roch, présidente du syndicat des avocats de France. Christophe Deltombe, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la solidarité citoyenne ?
C'est très difficile de chiffrer ce genre de choses parce que ce sont des initiatives qui sont prises par des familles, par des individus, des citoyens, et ce sont des initiatives qui ne sont pas faites avec publicité. Elles sont faites dans la confidentialité de la relation interpersonnelle, et donc c'est très compliqué de pouvoir recenser. On va essayer, nous, à la CIMAD, de creuser un peu la question pour en savoir un peu plus. Déjà dans la pratique de nos militants et de ceux qui sont autour de nous, mais difficile de pouvoir chiffrer, non.
Alors sur un site qui s'appelle Sursaut Citoyen, il y a 1200 initiatives citoyennes de solidarité avec les migrants qui sont recensées comme ça. Mais évidemment, on n'a aucune idée de la réalité des choses.
Monsieur Deltombe parlait quand même, vous avez vu il n'y a pas longtemps, dans le week-end dernier, des familles en Bretagne, c'est ça, qui ressemble peut-être un peu à ce collectif qu'on a entendu.
Il se trouve qu'à Saint-Brieuc, il y avait une quinzaine de mineurs isolés, non accompagnés. Et ces mineurs sont refusés par l'aide sociale à l'enfance parce que d'abord il n'y a pas de budget et par conséquent on conteste leur minorité, c'est de cette manière souvent qu'on évince leurs droits. Et comme ces mineurs ensuite se retournent vers le 115 pour être hébergés et qu'on leur dit non, vous êtes mineurs, vous n'avez pas le droit au 115, voilà des personnes qui sont entre les deux et qui n'ont rien. Et il y a un certain nombre de familles qui se sont réunies, qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et ça se passe dans un petit village des Côtes d'Armor. Une dizaine de familles ont décidé de prendre en charge 7, 8, 10 mineurs, et ces familles sont organisées pour que la charge que représente l'accueil et l'hébergement de ces mineurs ne soit pas trop lourde, et donc ont en quelque sorte solidarisé un peu leurs efforts. Ils se sont pris en main, ils ont décidé de faire un budget pour voir un peu ce que ça allait coûter. Ils ont fait des démarches pour que ces mineurs soient inscrits dans des établissements scolaires. Ils le sont tous aujourd'hui. Et puis, il est prévu que les mineurs vont être logés pendant 8 jours ici, puis 8 jours là, puis 8 jours là. De cette manière, ça évite cette charge un peu trop lourde. Et en même temps, puisqu'il y a quand même un budget à avoir, ben, il y a un appel d'aide financière à tous les amis. Un peu cette espèce de réseau qui se constitue. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'endroits actuellement en France. C'est une expérience qui se démultiplie et je dirais heureusement.
Et vous parlez de réseau, les citoyens justement qui s'engagent très souvent se tournent vers des associations qui ont pignon sur rue pour qu'elles puissent les aider, leur donner les éléments de compréhension.
De fait, l'initiative sont prises et puis souvent après, on bute un peu sur les difficultés parce que on fait des démarches pour la régularisation des papiers, pour trouver des solutions. Et là, on sait plus très bien comment ça passe. Alors, on va sur les sites, on va taper à la porte des différentes associations pour en savoir un peu plus. C'est normal.
Et l'avantage de CASA, là, en l'occurrence, c'est que c'est un collectif. Donc, la plupart des militants sont déjà militants, enfin, ou des bénévoles sont déjà militants dans de grandes associations. On citait l'Amicale Laïque au début, mais il y a évidemment aussi la Ligue des Droits de l'Homme et puis plein d'autres sur place qui peuvent aider. Absolument. Je présume la CIMAD ne doit pas être très loin.
Non, non, absolument.
Et alors, dans l'esprit du collectif CASA, là, on entendait Flore tout à l'heure, accueillir des migrants dans des communes rurales, c'est aussi une façon de repeupler, de redynamiser les campagnes. Est-ce que vous adhérez à cette idée?
Enfin, c'est un fait. Et de fait, c'est un élément extrêmement positif. On a des très beaux exemples en Italie, dans le sud de l'Italie, où des villages ont été revitalisés par l'arrivée de migrants, des écoles n'ont pas fermé, des commerces sont même réouverts. Bref, ça peut en effet apporter une revitalisation. Il ne faut pas non plus être totalement dans l'idéalisme, ça ne marche pas toujours aussi bien que cela, mais néanmoins, c'est une réalité, et c'est vrai en France également. On en a eu tout à l'heure dans le reportage, ce sont des réalités qu'en effet, les migrants sont souvent attendus. J'ajoute même qu'il y a des problèmes de recherche de main-d'œuvre dans certains secteurs et ces migrants peuvent apporter en effet la réponse à ces questions.
Mais quand l'État cherche à mieux répartir les demandes d'asile, les demandeurs d'asile sur le territoire, il y a parfois des réticences.
Ben oui, forcément, quand vous avez créé votre espace, établi des liens, etc. ici et qu'on vous dit d'aller là, tout le monde aurait la même réticence. Regardez les médecins, on leur imposerait d'aller s'installer ici ou là, ils ne sont pas d'accord. Hein. Vous avez le même problème, il n'y a pas de raison.
Je me tourne vers vous, Laurence Roch. Cet été, le Conseil constitutionnel a opposé au délit de solidarité le principe de fraternité. Mais honnêtement, pour les non-juristes, ça n'est pas évident de s'y retrouver, parce que certains ont dit c'est la disparition du délit de solidarité, d'autres pas tout à fait. Ces personnes qui accueillent et qui aident des migrants, est-ce qu'elles sont dans l'illégalité?
Au regard de la loi, c'est vrai qu'il faut, je pense, quand même essayer de clarifier la situation et en tout cas de mettre un terme au mythe qui est apparu après la décision du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas la fin du délit de solidarité. En revanche, ce qui est intéressant...
On peut peut-être d'abord dire ce qu'est ce délit de solidarité, parce que c'est un peu un abus de langage.
Non, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'allais y venir, c'est que le délit de solidarité, par définition, il est difficilement compréhensible dans la mesure où il va à l'encontre de ce qu'est la nature humaine et de ce qu'on nous apprend depuis toujours, c'est-à-dire l'hospitalité, voir en l'autre un frère, on y viendra sur le devoir de fraternité, et donc il est très compliqué pour les gens de pouvoir comprendre le délit de solidarité. Alors, soyons simples et en même temps juste historiquement, ce délit de solidarité, il existe depuis 1938. C'est important de le dire parce que c'est une période de l'histoire quand même qui permet de resituer ce qu'est le délit de solidarité, mais à l'époque, ça n'était pas un délit de solidarité, en fait, c'était toute personne qui aide de manière finalement directe ou indirecte une personne à être entrée ou être en séjour irrégulier encourait une condamnation pénale. Mais lorsqu'on voit la motivation à l'époque, la motivation c'était à l'égard des filières qui faisaient des faux papiers. Bon. Ce délit de solidarité n'a jamais bougé, on va dire jusqu'en 2012. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, pendant très longtemps, il n'a pas été utilisé à l'égard des aidants. C'est-à-dire que il était, en principe, lié aux filières, à ceux qui, on va le dire, faisaient de l'argent, même si ensuite, mais ce serait le débat dans une autre émission, il est très compliqué de dissocier les filières de, éventuellement, le devoir d'humanité, mais peu importe. En tout cas, c'était fait pour des gens qui avaient une contrepartie financière ou c'était pour démanteler des réseaux. Mais 1990... Donc, Convention de Schengen dit très très strictement que il ne peut y avoir finalement de délit pénal que si, en effet, il y a une contrepartie financière. Nous sommes tenus par les conventions. Donc en principe, on aurait dû intégrer dans notre code de l'entrée et du séjour des étrangers ce critère qui fait qu'on distingue l'aide, on va dire, désintéressée de celles, évidemment, des passeurs, ceux qui en tirent une rémunération, une fière. La France ne l'a jamais fait. Et elle ne l'a jamais fait pour une raison très simple. C'est que à ce moment-là, on est déjà sans Gat, Calais, on est déjà dans ce qu'on appelle les points de fixation. Et à ce moment-là, le gouvernement veut éviter les points de fixation et donc éviter une solidarité. Donc, on criminalise. Et depuis, il est vrai que si en effet on est arrivé jusqu'à cette décision du Conseil d'État, soyons clairs, encore aujourd'hui...
Conseil constitutionnel.
Mmh. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a statué que sur le séjour, c'est-à-dire les personnes qui vont aider les étrangers en séjour irrégulier par une aide directe ou indirecte, sans contrepartie. Sans contrepartie.
Cela ne pourront pas être poursuivis.
J'indique quand même que c'est 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et que si pendant très longtemps on ne voyait pas des demandes de peine d'emprisonnement par les procureurs, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Il y a toute une série, il suffit d'aller sur le site du Justi pour voir en ce moment quelles sont les condamnations déjà qui ont été prononcées, celles qui sont en cours ou qui ont été réclamées, pour savoir que nous sommes sur des peines d'emprisonnement. Sur l'entrée, c'est-à-dire toute personne qui va aider à entrer,
franchir une frontière,
là on continue de pouvoir être poursuivi. Et enfin, la contrepartie, c'est-à-dire que si évidemment on demande une contrepartie indirecte ou directe, c'était très intéressant, non, parce que dans votre reportage, une des personnes qui s'occupe de cette association dit c'est très important pour les personnes que nous aidons de pouvoir les autoriser à nous remercier par une contrepartie. Ça fait partie de la dignité. Si, à l'intérieur de cette maison où on va aider pour un soin ou autre, la personne va vous aider en contrepartie, vous tombez sous le coup de la loi.
Mais donc voilà, oui, quand on dit pas de service en échange, bon, je suppose que si elle peut faire la vaisselle, ça va quand même.
Non, ça peut tomber sous le coup. L'aide ménagère peut tomber sous le coup de la loi. C'est une contrepartie.
C'est une des ambiguïtés, à la fois du Conseil constitutionnel, mais aussi de la loi, parce que la loi du 1er août, qui a été votée, dit ceci.
La loi asile-immigration,
elle vise l'aide exclusivement humanitaire. Et ça, ce sont des mots extrêmement ambigus. Qu'est-ce que c'est qu'une action humanitaire ? Quand on prend la décision qui a condamné Cédric Kérou en appel à Aix-en-Provence,
cette
décision,
Cédric
Kérou, c'est celui qui a aidé un certain nombre de migrants à passer la frontière à Vintimille, dans la vallée d'Aroya. Bon. Et ce que dit la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est ceci. Cédric Kérou n'a pas agi de manière humanitaire puisqu'il a agi de manière militante. Ce qui pose un problème, parce que quand vous êtes militant pour une cause humanitaire, vous ne savez plus très bien si on va vous reprocher d'être militant ou d'être humanitaire. Et là, je pense que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence se prend un peu les pieds dans le tapis.
La question de combien de fois on est considéré comme militant.
Le mot humanitaire est un mot extrêmement dangereux parce qu'il invite finalement à une analyse introspective sur les mobiles des personnes. Et je pense, et je suis d'accord avec Laurence Rostlactu, c'est pas ce mot humanitaire qu'il faudrait utiliser, même s'il nous plaît beaucoup. C'est plutôt l'absence de contrepartie financière. Mmh. Je dirais même qu'il le faudrait marquer sans but lucratif. Voilà. Ça serait encore mieux. Parce que là, on aurait cette notion de bénéfice, cette notion d'argent que l'on gagne par une aide. Et là, on aurait véritablement la réponse à la question.
Mais là, on aurait le droit de contribuer aux tâches ménagères comme le fait un ami qui vient séjourner une semaine.
Moi, j'allais dire justement que là, en l'occurrence, dans les familles que moi j'ai vues, il ne s'agit pas de contribuer aux tâches ménagères, mais plutôt de donner un coup de main à l'association Casa quand elle organise des concerts, par exemple, pour récolter des dons, donc venir mettre les chaises, faire un peu la cuisine pour pouvoir vendre des choses. Voilà, ce genre de choses. Évidemment, ils ne vont pas faire le ménage chez les gens qui les aident. Ou même de participer à la vie familiale des gens qui vous accueillent. Là aussi, vous pouvez tomber sous le coup. Là où je rejoins le président de la CIMAT, c'est que là, on laisse en fait aux juridictions la possibilité d'apprécier selon finalement là où on sera jugé, si en effet on va tomber sous le coup de la loi ou pas, et selon quel militant. On sait très bien que Cédric Kérou, par exemple, pourquoi tout d'un coup il s'est retrouvé sous le joug de ces poursuites, c'est tout simplement parce qu'on a considéré que au bout d'un moment c'est trop, et qu'à partir de là, ben évidemment, le procureur engage des poursuites pour intimider les autres. Parce qu'il n'y a pas simplement, il y a une vertu de l'exemple là-dedans, c'est-à-dire ce qu'on dit aux autres, c'est attention à ce devoir de fraternité, il vous arrivera un certain nombre de choses. Et attention, quand on parle de poursuites, c'est des gardes à vue, c'est en effet des condamnations.
Lui, il a été condamné à 4 mois avec sursis de prison.
Je pense aussi à un certain nombre de montagnards qui aujourd'hui se retrouvent au col de l'échelle, à ouvrir la porte juste parce que les personnes sont en train de mourir de froid. Ce sont les mêmes qui, sur nos pistes de ski, quand nous skions, eh bien, viennent nous aider si on se retrouve dans la nuit hors piste. Faut bien réfléchir à ça. Ils pourraient tomber de la même façon sous ce coup-là. Donc, en effet, il y a une intimidation et c'est des gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui se retrouvent tout d'un coup totalement démunis.
Est-ce qu'à la CIMADE, des bénévoles ont eu des problèmes, justement, d'intimidation?
Oui, bien sûr.
De...
bien sûr. Mais avec cet arrêt du Conseil constitutionnel du 6 juillet, je pense que les choses vont changer. Puisqu'aujourd'hui, le principe de fraternité est érigé en principe constitutionnel, je dirais enfin. Du coup, forcément, ça inverse complètement la charge de la preuve. Et on n'aura pas, normalement, à démontrer que l'on agit de manière humanitaire. C'est au parquet à démontrer que l'on n'agit pas de manière humanitaire. Ce qui me paraît important maintenant, et votre reportage m'invite à le faire, c'est que ce qui est posé aujourd'hui, c'est la grande question de l'hospitalité. Cette question de l'hospitalité qui est l'objet de réflexion, Mireille Delmas-Marty, grande juriste, préconise de réfléchir à cette question pour en faire un véritable droit humanitaire, un droit de principe, si vous voulez. D'autres, comme Étienne Balibar, réfléchissent aussi à cette question. Ce principe de l'hospitalité, c'est un principe sur lequel il faudrait réfléchir sur un mode politique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'hospitalité? Et là, votre reportage y répond assez bien. C'est, premièrement, secourir les personnes qui sont en mer, qui sont en train de se noyer. C'est deuxièmement, accueillir. Et là, ça pose la question de l'accueil inconditionnel qui est posé dans la loi comme un principe auquel l'État doit répondre. Et puis, troisième idée, c'est appartenir. Ces trois termes que j'ai recueillis dans la revue Esprit du mois de juillet-août, qui est une très bonne revue sur la question de l'hospitalité, ces trois termes, et le troisième est intéressant. Le mot appartenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a aidé, une fois qu'on a apporté des éléments pour permettre aux personnes à la fois d'avoir les conseils juridiques, mais aussi d'avoir un toit et peut-être d'avoir à quoi manger, il faut que ces personnes appartiennent à la collectivité. Et leur donner des droits, c'est les mettre au même niveau, c'est les mettre à un régime qui est équivalent et qui fait que l'accueillant n'est plus paternellement, maternellement, celui qui va exercer par cet accueil une espèce de pouvoir sur l'autre.
On entendait poser la question du travail.
Oui, bien sûr, le travail, de toute façon, c'est, je dirais...
Quand on a l'interdiction de travailler, on se retrouve dans l'assistanat...
Bien sûr, mais enfin, la personne qui a le droit d'asile a le droit de travailler...
Au bout de la procédure, voilà.
Même avant, au bout d'un certain nombre de mois, on accède aux droits. Et puis d'autres personnes qui sont dans des situations de ce genre peuvent travailler. Le fait de travailler, évidemment, c'est l'intégration optimum.
Mais il faut quand même souvent des conditions pour travailler. Je veux dire que parmi ces migrants, il y en a qui sont traumatisés, tout dépend dans quelle situation ils arrivent, certains ne parlent pas français, etc. Il faut qu'ils se forment. Et on voit quand même dans les statistiques de la DARES, par exemple, qu'il y en a finalement relativement peu qui ont un contrat de travail stable au bout d'un an, même quand ils ont le statut de réfugié. Il y en a encore plein qui ne sont pas hébergés au bout de plusieurs mois, parce que normalement l'État est censé les héberger pendant 9 mois, mais il ne le fait pas. Enfin, j'imagine que ça doit vous préoccuper.
Oui. Même les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, normalement, il doit être hébergé dans les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. S'ils ne le sont pas parce qu'il n'y a pas assez de place, ils doivent toucher une allocation qui s'appelait l'ATA, l'aide temporaire pour les demandeurs d'asile. Cet ATA aujourd'hui, c'est maintenant le RSA, peu importe. Cette aide, elle est donnée parce qu'on n'est pas hébergé en CADA. Mais quand ces personnes n'ont pas trouvé de place en CADA et qu'elles sont hébergées par des citoyens, on leur donne pas l'aide parce qu'on leur dit les citoyens vous hébergent, donc il n'y a pas de problème. C'est pas normal. L'État devrait faire aussi ce petit chemin qui consiste à apporter à ces citoyens qui ouvrent leurs portes et qui les accueillent l'aide financière que normalement ces personnes devraient avoir dès lors qu'elles ne sont pas logées en CADA, par exemple.
Alors, il faut rappeler que la solidarité ne fait pas l'unanimité. Hein. Laurence Roch, on se souvient de la chasse aux migrants organisée par Génération Identitaire au mois d'avril. Vous parliez des Hautes-Alpes, c'est pour ça que ça m'y faisait penser. Marine Le Pen qui s'est rendue dans le Var cette semaine pour dénoncer la création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il y a quand même cette pression, quand même on est dans un climat, il y a aussi les élections européennes qui s'annoncent dans un climat bien où le thème de la sécurité, des frontières, etc. est avancé. Dans ce climat-là, il est difficile de faire entendre la nécessité d'ouvrir plus de droits aux personnes qui arrivent sur notre territoire.
Oui, alors il faut quand même dire que ce climat-là, il existe depuis très très longtemps. Évidemment, aujourd'hui, c'est sûr que l'Europe, hélas, se ferme complètement un peu partout et qu'il est entretenu à des fins électorales. Maintenant, soyons clairs, laissez croire aux gens que on va fermer les frontières, que les gens, malgré tout, ne viendront pas, c'est totalement illusoire, c'est leur mentir. On sait pertinemment que ça n'est pas possible, pour une simple et bonne raison, c'est que toute personne a une nécessité de sauver sa vie. Donc elle le fera. Les enjeux climatiques de demain vont faire que de toute façon, la politique migratoire que l'on entretient aujourd'hui, y compris au niveau européen, qui coûte une véritable fortune en termes de sécurité, de toute façon, est en échec. Donc si on n'est pas amené, là je rejoins votre interlocuteur, si on n'est pas amené à re-réfléchir la politique migratoire, outre le fait que l'on ment aux gens, outre le fait que, évidemment, on va en fait entretenir des nationalismes très préoccupants parce que l'accueil se faisant dans de mauvaises conditions, l'État ne mettant pas les conditions, évidemment que c'est explosif. Or, l'État, là, a une véritable responsabilité. De toute façon, par ailleurs, on sait très bien que plus on circule librement, et finalement, moins les gens se sédentarisent. Donc c'est aussi une autre vision. Et là, il va falloir à un moment que les gens prennent, y compris nos politiques, de véritables responsabilités. Parce que la politique, c'est pas en faire pour les 2-3 ans à venir, c'est peut-être en faire pour le siècle à venir. Et là-dessus, c'est évident que la fermeture des frontières est une erreur.
Merci beaucoup Laurence Roch, merci Christophe Deltombe. Migrants en Auvergne, la solidarité au quotidien. Le grand reportage de cette semaine était signé Tara Schlegel à la réalisation Annie Bro et Élise Leu à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur le site franceculture.fr.